Exode chapitre 19, versets 4 et 5. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Nous nous retrouvons une fois de plus pour étudier la parole de Dieu et pour comprendre ce qui est écrit. Nous avons traversé de nombreuses études et nous avons terminé la dernière fois sur cette fameuse étude sur les réclamations du quatrième ange, les réclamations solennelles du quatrième ange. Et si vous avez suivi, vous avez vu que sur cette étude, nous avons bien exploré le rejet par le témoin fidèle et véritable de l'ange de Laodicée, à savoir le ministère de Laodicée, qui s'est montré véritablement comme ce serviteur infidèle de Matthieu chapitre 24, versets 48 à 51. Nous avons vu tout le tracé prophétique et historique qui nous mène à cette conclusion inévitable que le Seigneur a bel et bien fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, à savoir vomir l'ange de sa bouche, vomir le messager de Laodicée, qui n'est autre que le ministère, l'ensemble pastoral et des dirigeants de l'Église adventiste du septième jour. Nous avons vu cela, et donc là je ne fais que résumer ce qui nous a pris plusieurs heures pour conclure. Et comme nous avons vu aujourd'hui dans notre lecture biblique, ce que j'aimerais que l'on puisse contempler aujourd'hui, c'est aller plus profondément, parce que certes nous avons exploré le tracé historique des révélations, de comment se sont accomplies ces prophéties qui avait jalonné les communications de Dieu à son peuple à partir de 1888 et même avant cela, et précisément à partir de ce message de la justice de Christ à Minneapolis. Et à partir de cette date jusque à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Nous avons exploré tout cela, nous avons vu tout cela, toutes ces dates très précises, tout ce cheminement du Seigneur et du peuple qui était bien prêt à recevoir l'Esprit que le Seigneur répandait alors dans la pluie de l'arrière-saison, qui, nous avons vu, a commencé en 1888. Et nous sommes arrivés à ce point fatidique de 1914, quand les dirigeants en Europe ont renié le message, ont abandonné la vérité, ou, pour reprendre les paroles de l'Esprit de prophétie, apostasié de la vérité, ou sont descendus du fondement que Dieu avait établi pendant les 50 années de formation auxquelles l'Esprit de prophétie fait de nombreuses fois référence. Nous avons exploré cela. Mais maintenant, j'aimerais que nous puissions approfondir, parce que ces études, je les fais parce qu'il faut les faire. Mais ce n'est pas parce que j'y prends nécessairement plaisir, mais parce qu'il faut les savoir, parce que si nous ne les savons pas, nous serons de l'obscurité, parce que nous ne comprendrons pas où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui dans l'accomplissement de la prophétie. Elles sont indispensables si nous ne les avons pas, si nous n'avons pas cette compréhension, nous demeurerons dans les ténèbres dans une mesure ou dans une autre. Ainsi, ces études sont indispensables, je ne m'excuse pas, je ne demande pas pardon de les avoir faites, je les referai s'il le fallait. Mais maintenant qu'elles sont faites, maintenant que je peux attirer l'attention des frères et sœurs à ces choses qui ont été enregistrées par la grâce de Dieu, et l'accompagnement de l'Esprit du Seigneur, eh bien je veux que nous allions en profondeur, je veux que nous explorions, Dieu aidant, l'aspect spirituel de la chose qui s'est manifesté physiquement et concrètement et cruellement lors de l'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914 et suivant à travers ces années où le mauvais serviteur a montré sa disposition à rejeter les commandements de Dieu. Parce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu, nous pouvons dire que nous aimons sa loi, nous pouvons dire que nous sommes adventistes, sauf que lorsque la persécution arrive, c'est là que nous savons réellement ce que le monde vient à réellement savoir et découvrir ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Parce que dans Matthieu chapitre 24, verset 48, il est bel et bien écrit que ce méchant serviteur, il dit en son cœur que le Seigneur tarde à venir. Mais par sa bouche, il dit la même chose, mais dans son cœur. Et les actions de sa vie, les œuvres qui sont les siennes, montrent et manifestent que le langage de sa bouche n'est pas pareil que la condition de son âme et de son cœur vis-à-vis du Seigneur. Et donc cela a été manifeste que de nombreux disaient quelque chose mais vivaient une autre chose. Lorsqu'ils ont été poussés par leur infidélité de cœur à être aussi infidèles par leurs actes et leurs paroles. Comme nous avons vu à travers les lettres qui ont été adressées au ministère de la guerre à Berlin et au commandant des armées de Dresde. Ces choses-là, nous les avons explorées. Si vous ne les avez pas lues, entendues, écoutées, regardées, je vous invite à aller les explorer parce qu'elles sont indispensables. Mais maintenant, allons de nouveau vers notre lecture biblique et considérons l'attention que Dieu a pour son Église, l'attention que Dieu a pour son peuple et les conditions qui font que Dieu a ce regard suprême, comme nous allons le voir, envers son Église. Dans Exode chapitre 19, verset 3 à 6, nous élargissons notre lecture pour pouvoir avoir une compréhension plus profonde. Nous le lisons maintenant un peu plus élargi que la lecture biblique. Je lis Exode chapitre 19, verset 3. Et Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. » Et verset 6, « Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Et ici, si vous regardez au verset 5, il est écrit dans la Bible Osterwald, « Vous serez ainsi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. » Et dans la Bible King James, vous lisez littéralement « Vous serez pour moi un trésor particulier. » D'où le nom et le titre de notre méditation d'aujourd'hui. « Vous serez, si vous remplissez les précédentes conditions, vous serez d'entre tous les peuples de la terre, tous les peuples, les multitudes, les millions et les milliards, vous, ce peuple à qui je m'adresse, qui répond à ses attentes, à mes exigences, vous serez alors mon plus précieux joyau, vous me serez un trésor particulier, car toute la terre est à moi. » Qu'est-ce que cela veut dire, car toute la terre est à moi? Quel est le lien? Parce que tous les trésors sont à moi. Mais vous, si vous faites cela, si vous écoutez ma voix, si vous êtes obéissant à ma voix pour garder mon alliance, alors vous, quoique tout m'appartient, vous me serez un trésor particulier ou mon plus précieux joyau. Tous les joyaux sont à moi. Je peux les requérir, je peux les obtenir, je peux les demander, je peux les redemander. Mais vous me serez plus précieux que tout. Vous me serez un trésor particulier. Le trésor particulier de Dieu. Et donc, frères et sœurs, c'est ça que nous voulons explorer aujourd'hui. Nous voulons explorer quel est ce trésor particulier de Dieu. Et est-ce que nous pouvons aspirer à être ce trésor? Et quelles sont les conditions selon lesquelles nous pouvons faire partie de ce trésor, être ce trésor, ce peuple qui est pour Dieu un trésor particulier? Je lis ici dans le commentaire biblique des écrits d'Ellen G. White, à la page 113, le passage suivant, qui se trouve dans la Bible, pardon, dans la version anglaise, dans Bible Commentary, volume 1, page 1103, paragraphe 10. Commentaire biblique, page 113. Ici, elle cite Exode, chapitre 19, versets 3 à 9, dont nous avons cité la majeure partie, et elle dit, l'esprit de prophétie nous dit, « Cette alliance a autant de force aujourd'hui que lorsque le Seigneur l'a conclue avec l'ancien d'Israël. » Est-ce que cette alliance qui était adressée aux enfants d'Israël a aussi de la force aujourd'hui? Nous lisons qu'elle a autant de force aujourd'hui que lorsque le Seigneur l'a conclue avec l'ancien Israël. Parce qu'aujourd'hui, nous lisons au sujet des adventistes, de ceux qui adhèrent au message des trois anges, qu'ils sont l'Israël moderne. L'Israël moderne. Maintenant, nous voulons explorer les détails de ce trésor. D'ailleurs, nous allons pourvoir dans une confirmation dans le Nouveau Testament de cette déclaration de l'Esprit de prophétie. Nous allons dans un ordre différent. Normalement, nous regardons la parole de Dieu d'abord. Mais ce n'est pas grave, parce que vous allez voir que l'un ou l'autre se complète. Et ni l'un ni l'autre vient se contredire. Je lis dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Nous lisons encore une fois au sujet de ce peuple que Dieu veut avoir, veut pouvoir regarder comme son trésor et considérer comme son trésor particulier. 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est intéressant parce qu'au verset 9, il est écrit, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis. Et dans la Bible King James, nous lisons, le peuple particulier, le trésor particulier, le peuple particulier, la race élue, la sacrificature royale. Il avait dit, vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs, n'est-ce pas? Une nation de sacrificateurs. Pourquoi? Pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà les détails de ce trésor particulier de Dieu. C'est un trésor particulier, c'est un peuple particulier. C'est un peuple qui est différent. Parce que vous lisez au début du verset 9, mais vous, à la différence de ceux qui, verset 8, désobéissent à la parole et se heurtent contre elle, ceux pour qui Jésus est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ceux qui sont incrédules et qui rejettent la pierre angulaire qui est Christ. Mais vous, dit-il, l'apôtre, sous l'esprit d'inspiration, mais vous à qui il s'adresse, vous qui êtes croyants, vous qui êtes chrétiens, vous qui croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui croyez au Père, qui croyez au Fils, qui croyez au Saint-Esprit, qui n'êtes pas trompés, vous êtes un peuple particulier, un trésor pour Dieu. Il a dit, nous avons lu dans Exode chapitre 19, si vous écoutez ma voix, pour être fidèle à mon alliance. Exode chapitre 19, pardonnez ma mémoire. Verset 5, maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, c'est encore mieux. Ou pire, selon votre disposition. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d'entre tous les peuples, pour moi un trésor particulier. Je le lis comme c'est écrit dans la King James. Car toute la terre est à moi. Si vous obéissez à ma voix, si vous gardez mon alliance. Et d'ailleurs, nous lisons ces conditions dans 1 Pierre, chapitre 2, dans la suite, au verset 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation en voyant vos bonnes œuvres. Oh! Je vous exhorte, dit-il, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Comment est-ce que je peux faire partie de ce peuple particulier, ce peuple qui est différent de ceux qui désobéissent au Seigneur, qui désobéissent à sa voix, qui ne gardent pas son alliance, en m'abstenant des convoitises charnelles? Hein? Où est-ce que vous êtes, mes frères? Où est-ce que vous êtes, mes sœurs, vis-à-vis de ce point-là? Dans ces derniers jours, les convoitises charnelles, que font-elles? Elles font la guerre à l'âme. C'est un ennemi constant. Et où sont ces convoitises charnelles? Nous lisons à un autre endroit que elles règnent, la convoitise règne dans le monde. Et que ça fait la guerre à l'âme, et que pour être ce peuple particulier, il faut s'abstenir de ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Avoir une conduite honnête parmi les gentils. Hein? Une conduite honnête. C'est-à-dire que vous êtes honnête envers Dieu, honnête envers les hommes. Vous êtes honnête envers Dieu et envers les hommes parce que vous ne dites pas que vous croyez quelque chose tout en faisant exactement le contraire. Là, en faisant cela, je remplis les conditions pour être pour Dieu un trésor et un peuple particulier. Il y a une conduite honnête parmi les gentils. Les gentils n'ont pas de conduite honnête, ils ne savent pas ce que c'est l'honnêteté, ils n'en ont qu'une forme. Mais nous voulons avoir la puissance de la piété, la force qui anime et donne toute la vie à la religion de Jésus-Christ. Alors nous avons cette condition qui permet, qui satisfait à cette attente de Dieu pour qu'il puisse nous considérer, nous contempler comme son trésor particulier. Nous lisons de plus au verset 21 et 25. Car c'est à cela que vous êtes appelés. Puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui, outragé, ne rendait point d'outrage et maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous, étant morts au péché, avec un S, morts, nous vivions à la justice et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais vous êtes maintenant retourné au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Et si, étant retourné à ce bon pasteur, à cet évêque de mon âme, je demeure en lui, j'écoute sa voix pour obéir à sa voix et que je garde son alliance, alors je serai considéré, nous serons considérés, regardés par Dieu comme son trésor particulier. Quoi qu'il tout lui appartienne sur la terre, dans l'univers, cela sera pour lui un peuple d'une différente odeur. Un peuple en qui il prend plaisir, une race élue, une sacrificature royale, un royaume de prêtres. Vous comprenez? Nous avons vu quelques détails de ce trésor. Allons-y pour élargir encore ce panorama de ce trésor de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 32, versets 7 à 12. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années d'âge en âge. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le Très-Haut donnait leur lot aux nations, quand il séparait les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert, dans une solitude où il n'y avait que hurlement de désolation. Il l'entoura, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle qui réchauffe son nid et couve ses petits, qui étend ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes, l'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Et nous ne lisons pas la suite parce qu'après, la donne se modifie. Mais nous avons ici, dans ce passage que nous venons de lire au sujet de ce peuple qui est la portion de l'Éternel et le lot de son héritage, nous lisons ici cet idéal dans cette condition de fidélité qui fut alors celle du peuple d'Israël, qui est pour nous un exemple de ce que nous sommes appelés à savoir, tel que nous venons de le lire dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10 et jusqu'au verset 25, parce que tout cela est compris. Vous ne pouvez pas dissocier la promesse des conditions sur lesquelles la promesse est fondée, est promise et assurée. Ce peuple-là, c'est la portion de l'Éternel. Le psalmiste, il dit dans ses psaumes, « Toi, Seigneur, tu es ma portion. » Mais ici, le Seigneur, il dit que vous, vous êtes ma portion. Vous comprenez la relation réciproque d'une affection profonde de Dieu pour son peuple et du peuple de Dieu pour lui? Eh bien, pour que nous soyons cela pour Dieu, il faut que Dieu soit cela pour nous. Il ne peut être cela pour nous que si nous comprenons que nous avions été cela pour lui avant même que nous fassions le bien en réponse à son amour. Parce que il est écrit dans Romains que lorsque nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. Et le peuple qui comprend cela, qui répond à cet amour indicible de Dieu, incompréhensible de Dieu, eh bien, Dieu le regarde en retour, ce peuple, comme un trésor particulier. Vous comprenez? Il le regarde comme un trésor particulier parce que c'est un peuple qui comprend l'amour que Dieu avait déjà pour ce peuple alors qu'il n'était pas un trésor. Alors, quand bien même, il fut un trésor à cause de son amour. Non pas à cause de sa réponse. Vous comprenez? Mais ceux qui résistent l'esprit, ceux qui comprennent l'amour mais qui résistent l'esprit, alors eux ne sont pas un trésor pour Dieu. Quoi qu'ils soient un trésor pour lui parce qu'il a déjà payé un prix inestimable pour leur salut. Mais ceux qui répondent à l'amour de Dieu deviennent un trésor particulier au-delà de ce trésor que toute âme est déjà pour le Seigneur. Parce que Jésus a donné sa vie, versé son sang, répandu sa vie, sa dévotion, ses affections, sa consécration tout entière pour le plus vil des pécheurs. J'aimerais lire dans ce livre en anglais qui n'est pas traduit en français, mais dont nous avons la traduction ici, pour cette citation, ce livre qui s'appelle « Solemn Appeal », un appel solennel, à la page 143 et au paragraphe 1. Lisons ensemble, plutôt écoutez. Et vous pourrez le lire, bien entendu, cela sera fourni, comme d'habitude. Je lis. « Le peuple de Dieu, plus que tous les autres peuples du monde, se doit d'être un modèle de piété, saint dans son cœur et dans sa conduite. Dieu demande au peuple qu'il a choisi comme son trésor particulier d'être élevé, raffiné, sanctifié, participant de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Si ceux qui font une si grande profession de foi se livrent au péché et à l'iniquité, leur culpabilité est très grande parce qu'ils ont reçu une grande lumière et que, par leur profession, ils ont pris position comme le peuple spécial et élu de Dieu, ayant la loi de Dieu écrite en leur cœur. » Écoutez bien maintenant. Suivez. Ils témoignent de leur loyauté envers le Dieu du ciel. Comment ? Comment témoignent-ils de leur loyauté envers Dieu ? En obéissant aux lois de son gouvernement. Ils sont les représentants de Dieu sur la terre. Tout péché ou toute transgression en eux les sépare de Dieu et, d'une manière particulière, déshonore son nom en donnant aux ennemis de la sainte loi de Dieu l'occasion de réprouver sa cause et son peuple qu'il a appelé une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin qu'ils annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous comprenez ? Je vais essayer de tout résumer ici. Nous témoignons de notre loyauté envers le Dieu du ciel que nous professons adorer par notre obéissance aux lois de son gouvernement. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous sommes désobéissants aux lois avec un S de son gouvernement, alors nous témoignons de quoi ? Que nous sommes déloyaux. Et donc, notre obéissance à la loi de Dieu, notre relation vis-à-vis de la loi de Dieu va définir si nous sommes ou pas le trésor particulier de Dieu. Ce n'est rien de plus qu'un élargissement inspiré de ces paroles que nous avions lues dans Exode chapitre 19, verset 4. D'accord ? Ces personnes-là, et nous pouvons dire nous, ils sont les représentants de Dieu sur la terre. Tout péché ou toute transgression en eux les sépare de Dieu, d'une part, mais pas que cela. Et d'une manière particulière, déshonore son nom, le nom de Dieu, en donnant aux ennemis de la sainte loi de Dieu l'occasion de réprouver sa cause et son peuple, qu'il a appelé, etc., une race élue, etc. Après, elle cite 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Donc nous voyons ici, frères et sœurs, une distinction et une transition dans notre méditation dans laquelle nous voyons l'importance de la relation que nous entretenons non pas seulement à Dieu, mais à sa loi, et ce que cela signifie lorsque nous nous montrons infidèles à sa loi. Cela montre non pas simplement à l'univers du ciel, à Dieu et aux anges, mais aussi au monde, que nous sommes déloyaux au Dieu que nous professons servir et adorer. Donc notre loyauté ne sera pas simplement et uniquement déterminée par nos paroles, notre profession de foi, mais par nos actes et comment nos actes manifestent notre allégeance au Dieu du ciel qui gouverne l'univers par sa loi. Je lis le début pour maintenant élargir ce concept tout en nous souvenant bien que c'est la loi de Dieu et notre relation vis-à-vis d'elle qui définit notre loyauté envers le Dieu du ciel. Le peuple de Dieu, plus que tous les autres peuples du monde, se doit d'être un modèle de piété, saint dans son cœur et dans sa conduite. Dieu demande au peuple qu'il a choisi comme son trésor particulier d'être élevé, raffiné, sanctifié, participant de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Donc il s'agit ici d'une obéissance, non pas simplement de forme, de garder un jour, de montrer à tout le monde sur la face extérieure de l'être que nous sommes en harmonie avec la loi de Dieu. Non, il s'agit de plus de ça, d'être un modèle de piété saint dans notre cœur et dans notre conduite. Dans notre conduite et dans notre cœur. D'être un peuple élevé, raffiné, sanctifié. Comment? En étant participant de la nature divine. Nous passons. Maintenant, j'aimerais que nous puissions contempler les paroles de Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Vis-à-vis de cet appel que Dieu fait à ce peuple qu'il s'est choisi pour son trésor particulier. Zacharie chapitre 2, versets 7 à 8. Sauve-toi, Sion, qui demeure sur la fille de Babylone. Car ainsi a dit l'Éternel des armées qui m'a envoyé avec gloire vers les nations qui vous ont pillé. Qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voilà ici Dieu qui parle vis-à-vis de son peuple, de son trésor, de son église. Et que dit-il? Écoutez bien, frères et sœurs, je veux que nous arrivions à faire la connexion ici, que nous ne lisions pas simplement pour élargir notre connaissance, mais que nous recevions de la sagesse, recevions du discernement, recevions un collire. Dieu parle à ceux qui professent la foi en Dieu, en lui, au message du troisième ange. Il dit, il se peut que tu aies bu un peu. Il se peut que tu sois un peu enivré. Il se peut que tu ne comprennes plus où tu es, les tenants et aboutissants de ta foi. Il se peut que tu sois confus. Sauve-toi. Sion qui demeure chez la fille de Babylone. Voici ce qu'il dit. Qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Dieu est en train de dire ici que si quelqu'un touche à mon église, c'est comme s'il touchait à mon œil. Donc l'église de Dieu, c'est quelque chose de très important pour lui. Vous comprenez? Est-ce que c'est important pour vous la prunelle de votre œil? Qu'est-ce que quelqu'un vous allez faire quand quelqu'un essaie de mettre son doigt dans votre œil? N'allez-vous pas le repousser vigoureusement parce qu'il est en train de tout toucher à une des choses les plus précieuses qui vous appartiennent? Eh bien, Dieu est comme cela vis-à-vis de son peuple. Dieu est comme cela vis-à-vis de son église. Dieu est comme cela vis-à-vis de son trésor. Il dit, tu me touches, tu le touches, c'est comme si tu me touches. Vous comprenez? Donc là, nous commençons à discerner que Dieu n'est pas indifférent vis-à-vis de ce qui arrive à son Église. Et ce que des hommes qui sont sortis dans leur cœur de son Église vont faire à son Église. Vous comprenez? Il s'agit d'un peuple. comme nous allons le voir plus tard, dans pas très longtemps d'ailleurs, l'Église de Dieu, c'est un peuple, ce sont les fidèles. Depuis le commencement, les fidèles ont constitué l'Église de Dieu sur la terre. Donc il se peut que dans une organisation, il y ait des hommes qui soient sortis de l'Église de Dieu, qui n'appartiennent pas à son peuple particulier parce qu'ils se montrent et manifestent clairement qu'ils ne sont pas, ils ne font pas partie de ces hommes qui remplissent des conditions de la parole de Dieu pour être ce peuple particulier que Dieu se considère comme lui appartenant malgré que tout lui appartient dans la terre. Il se peut qu'il y ait des hommes qui fassent du mal à son Église, qui fourvoient son Église, qui mène son Église à la perdition. Comment est-ce que Dieu réagit face à cela? Il dit, tu touches, c'est comme si tu me touches. Tu leur fais du mal, c'est comme si tu me fais du mal. J'aimerais que nous lisions dans ce livre, encore une fois, qui n'est pas traduit en français, mais que nous avons, dont nous avons la traduction pour ce passage, dans Testimonies for the Church, volume 1, page 361, paragraphes 1 et 2. Témoignage à l'Église, mais ce n'est pas la même que ce qui existe. Donc, Testimonies for the Church, volume 1, page 361. Je lis. Je lis le premier paragraphe pour que nous ayons le contexte, mais le point particulier et important ici va se trouver dans le second. Tendez bien l'oreille, frères et sœurs. J'ai vu qu'il est de notre devoir, dans tous les cas, d'obéir aux lois de notre pays. À moins qu'elles n'entrent en conflit avec la loi supérieure que Dieu a prononcée d'une voix audible depuis le Sinaï et qu'il a ensuite gravée sur la pierre de son propre doigt. Elle cite, « Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui qui a la loi de Dieu écrite en son cœur obéira à Dieu plutôt qu'aux hommes et préférera désobéir à tous les hommes que de s'écarter un seul instant du commandement de Dieu. Le peuple de Dieu, ceux qui sont enseignés par l'inspiration de la vérité et conduits par une bonne conscience à vivre selon toute parole de Dieu, prendront sa loi écrites en leur cœur comme la seule autorité qu'ils puissent reconnaître ou consentir à obéir. La sagesse et l'autorité de la loi divine sont suprêmes. » Donc celui qui a la loi de Dieu écrite en son cœur, il obéira à Dieu plutôt qu'aux hommes quand les lois des hommes sont en conflit avec la loi supérieure que Dieu a prononcée depuis le mont Sinaï. Je continue. Il m'a été montré que le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre troublante. Elle parlait ici de la guerre civile en 1864, je crois. La guerre civile aux États-Unis d'Amérique. Il m'a été montré que le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre troublante. Pourquoi? Car ce serait contraire à tous les principes de leur foi. Tout. Tout serait aboli. S'ils s'étaient engagés, disait-elle, s'ils s'engageaient, tous les principes de leur foi seraient contrariés, seraient abolis dans leur vie. Dans l'armée, ils ne peuvent pas à la fois obéir à la vérité et aux exigences de leur supérieurs. Ils ne peuvent pas faire les deux. Il faut qu'ils obéissent à la fois à la vérité, il faut qu'ils obéissent soit à la vérité, soit à leur supérieur. Ils ne peuvent pas faire les deux. Ils violeraient sans cesse leur conscience. Ils seraient sans cesse contraints de faire des choses que leur conscience leur interdit. Les hommes mondains sont gouvernés par des principes mondains. Ils ne peuvent en apprécier d'autres. La politique mondaine et l'opinion publique constituent le principe d'action qui les gouverne et les conduit à pratiquer la forme de la droiture. Mais, le peuple de Dieu ne peut être gouverné par ses motifs. Les 10 préceptes de Jéhovah sont le fondement de toutes les lois justes et bonnes. C'est le fondement. Tout le monde tire leur inspiration de cette loi. Hein? Hein? Ils la condamnent, ils la critiquent, mais leurs lois sont issues, leurs bonnes lois, leurs lois justes et bonnes sont issues des principes que l'on peut retirer de la loi de Jéhovah. Parce qu'ils n'ont pas de sagesse. La sagesse, elle vient de Dieu. Vous comprenez? Je relis. Les 10 principes de Jéhovah sont le fondement de toutes les lois justes et bonnes. Hein? Cela veut dire qu'il y a des lois qui ne sont pas justes et bonnes et dont la loi de Dieu n'est pas le fondement. Vous comprenez? Mais nous passons. Ceux qui aiment les commandements de Dieu se conformeront à toutes les bonnes lois du pays. Mais, si les exigences des dirigeants entrent en conflit avec les lois de Dieu, la seule question à régler est celle-ci. Obéirons-nous à Dieu ou à l'homme? Donc, ici nous avons vu, encore une fois, nous progressons dans cet appel. Cet appel du Seigneur à son trésor. Vous comprenez? C'est un appel à notre intelligence. Parce qu'il faut bien comprendre ce que le Seigneur est en train ici de communiquer. Nous allons poursuivre, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre troublante, disait-elle. Et par extension, dans toutes les guerres. Parce que dans aucune guerre, il deviendra possible pour le peuple de Dieu d'obéir à la foi, à la vérité et aux exigences des supérieurs. C'est un principe qu'elle venait de présenter, qui était illustré par cette guerre civile horrible de 1864 aux États-Unis d'Amérique. Et ce principe qui nous a été donné par le témoignage de Jésus est applicable à toutes les guerres. Toutes les guerres. Parce que le principe de la guerre est contenu, est présenté, est exposé à notre entendement dans cette citation de Testimonies for the Church, volume 1, page 361. Je le relis, au cas où nous ne l'avons pas saisi. Il m'a été montré que le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre troublante. Pourquoi? Car ce serait contraire à tous les principes de leur foi. Tout. C'est contraire à tout. Vous comprenez? Il n'y a pas pire. Vous ne pouvez pas faire pire pour aller à l'encontre de notre foi adventiste. En d'autres termes, si vous vouliez aller à l'encontre de votre foi adventiste, pour le faire parfaitement, entre guillemets, il faudrait que vous alliez vous enrôler dans l'armée. Parce que selon l'esprit de prophétie, nous lisons que si le peuple de Dieu s'engageait dans la guerre, ce serait contraire à tous les principes de leur foi. Dans l'armée, ils ne peuvent pas à la fois obéir à la vérité et aux exigences de leurs supérieurs. Qu'est-ce qui est vraiment le problème ici sous-jacent? Ils violeraient sans cesse leur conscience. Leur conscience a été éduquée, leur conscience a été éclairée, leur conscience a été ennoblie. Mais maintenant, s'ils vont s'enrôler dans l'armée, ils vont violer sans cesse cette conscience qui a été purifiée. Elle va être souillée, elle va être noircie, elle va être violée. Vous comprenez? C'est le pire. Et maintenant, frères et sœurs, maintenant que j'ai introduit plus ou moins le sujet, j'aimerais vous lire. Hein, parce que nous sommes toujours dans le lien entre nos études précédentes. Je ne l'ai pas trop fait ici, mais nous n'allons pas manquer ici de le voir par cette déclaration suivante au sujet de la position qui a été prise par l'Église adventiste du septième jour sur la question de la guerre et qui a été prise en 1923. Nous savons, vis-à-vis de nos études précédentes, que en 1914, et je crois aussi que c'était en 1915, des lettres ont été envoyées au gouvernement à Berlin par les dirigeants de l'Église de la conférence de la division, pardon, européenne en Allemagne, promettant au gouvernement allemand que tous les membres de l'Église adventiste s'enrôleraient ou participeraient d'une manière ou d'une autre aux efforts de guerre. Hein, nous l'avons vu, je ne vais pas y repasser. Nous avions les citations, nous avons ces lettres, nous les avons en entier. Rien ne manque. Hein, signé par Schubert, signé par le président de la division européenne, tout est là. Hein, rien ne manque. Les preuves sont incontestables. Hein, même aujourd'hui, les dirigeants de l'Église adventiste, la grande Église, ne contestent pas cela. Les faits sont indéniables. Il y a eu une apostasie. Simplement, vous comprenez que le méchant serviteur, parce qu'il est infidèle et qu'il viole sa conscience, il arrive aussi à violer la conscience des autres parce qu'il est confus et il ne sait que répandre la confusion. Et donc les réponses que vous aurez à ce sujet seront confuses parce que l'homme qui est confus ne sait que répandre la semence de la confusion. Il ne peut pas faire autre chose parce qu'elle est, c'est comme une ivraie qui est remplie dans le champ de son esprit. Il n'a rien d'autre à donner au peuple de Dieu. Je lis ici la position qui a été prise par l'Église adventiste sur la guerre, sur la question de la guerre en 1923, qui a été prise lors à l'issue pardon du conseil du comité de la division européenne à Gland en Suisse le 2 janvier 1923. Hein, parce que il n'y avait pas eu de décision conjointe de toutes les divisions à travers le monde sur la question de la guerre jusque-là. Donc, localement, en Autriche et en Hongrie et en Allemagne, les décisions qui avaient été prises localement pendant que la Première Guerre mondiale a éclaté, c'est que ces divisions locales, ces églises, ces petits comités ont décidé d'apostasier. Mais maintenant, en 1923, il s'agissait d'une décision prise conjointement avec toutes les autres divisions, y compris la conférence générale en Amérique, qui n'est autre que le quartier général de l'Église adventiste. Écoutez bien, frères et sœurs, je lis. Issu du conseil du comité de la division européenne à Gland, en Suisse, le 2 janvier 1923. Déclaration de principe. Le comité exécutif de la division européenne de la dénomination des adventistes du septième jour, réuni en conférence à Gland, Suisse, après avoir soigneusement délibéré sur l'observation du sabbat, le service militaire et le port d'armes en temps de paix et en période de guerre, se déclare unanimement en harmonie avec l'enseignement général de leurs frères de cette dénomination dans le monde entier comme suit. Hein, il s'agit du monde entier. Il ne s'agit plus de l'Allemagne en 1914. Il s'agit de la prise de position en harmonie avec l'enseignement général des frères de la dénomination dans le monde entier en 1923. Donc quand tout s'était refroidi, voilà la décision qu'ils ont prise. Pas dans la hâte, mais quand tout a été refroidi. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. Nous reconnaissons... Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous attirer votre attention vers le fait que il y a beaucoup de bien ici, mais il faut que vous tendiez l'oreille parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir du poison. Écoutez, je lis. Nous reconnaissons que les gouvernements terrestres ont été ordonnés par Dieu dans le but d'assurer à leur peuple les bienfaits de l'ordre, de la justice et de la tranquillité. Que dans l'exercice de leurs fonctions légitimes, ces gouvernements doivent recevoir le soutien loyal de leurs citoyens. Nous affirmons qu'il est juste de rendre le tribut, l'impôt et l'honneur au gouvernement terrestre comme l'enjoint le Nouveau Testament. Nous respectons la loi de Dieu contenue dans le Décalogue telle qu'elle est expliquée dans les enseignements de Christ et illustrée dans sa vie. Pour cette raison, nous observons le sabbat du septième jour, samedi, comme un temps sacré. Nous nous abstenons de tout travail séculier ce jour-là, mais nous nous engageons volontiers dans des œuvres de nécessité et de charité pour soulager la souffrance et élever l'humanité. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, je vous ai dit. Écoutez maintenant. En temps de paix et de guerre, nous refusons de participer à des actes de violence et à des effusions de sang. Nous accordons à chacun des membres de notre Église la liberté absolue de servir son pays en tout temps et en tout lieu, conformément aux exigences de sa conscience personnelle. C'était bien jusqu'à un moment. Après, ils ont lâché la bombe. Voyez maintenant, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention vers ces choses. C'est quelque chose que j'ai mentionné à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, nous disons, oui, mais nous ne croyons pas en la guerre. Oui, sauf que vous avez dit cela, qui a tout détruit, de telle sorte que tout ce que vous dites n'a aucune valeur à cause de cet enseignement critique qui est le fondement de l'apostasie. Hein? Ce n'est plus juste de dire que les membres, maintenant, nous obligeons les membres. Maintenant, c'est différent, c'est très subtil. Il s'agit d'accorder à tous les membres de l'Église la liberté absolue de servir son pays en tout temps et en tout lieu, conformément aux exigences de sa conscience personnelle. En d'autres termes, il disait, donc nous croyons en la loi de Dieu, nous croyons que nous devrions garder, observer le sabbat, nous croyons, mais nos membres peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah. Vous comprenez cela, frère et sœur? Quelle est la valeur de nos croyances si nous donnons à nos membres la liberté absolue de désobéir à la loi de Dieu? Hein? Quelle est la valeur de nos croyances? Nous allons dire, voilà, nous croyons à la réforme de la santé, voilà, nous croyons au témoignage de l'esprit de prophétie, voilà, nous croyons à cela, voilà, nous croyons au sabbat. Mais en fait, vous pouvez joindre notre église et vous pouvez faire ce que vous voulez. Quelle est la valeur de vos paroles? Rien, ça ne vaut rien du tout. Vous comprenez? Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Zacharie chapitre 2, verset 7. Qui te touche? Qui touche à mon église? Touche à la prunelle de mon œil. Est-ce que la vérité pour Dieu est importante? Hein? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous exposez le peuple de Dieu, l'église de Dieu qui est censée être la base et la colonne de la vérité, et que vous dites maintenant que dans l'église, les membres peuvent faire selon leur conscience tout ce qu'ils veulent, servir, s'enrôler dans la guerre pour servir leur pays en tout temps, en tout lieu, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de toucher à l'œil de Dieu. Et Dieu n'aime pas trop cela. Dieu n'aime pas cela. Vous êtes en train de toucher à son trésor. Il ne fait pas bon, frères et sœurs, de faire cela. Parce que vous ne savez pas à quoi vous exposez quand vous vous engagez dans une telle attitude, un tel cheminement d'apostasie, de rébellion contre le gouvernement de Dieu. J'aimerais vous lire trois citations pour mettre en lumière ces agissements, ces déclarations incroyables de la part des dirigeants de l'Église adventiste du septième jour qui ont composé cette déclaration en 1923 et qui est parue dans la Review and Herald du 4, 5 et 6 mars 1924. Donc tout cela est documenté, si vous pouvez aller voir, vérifier. J'aimerais que nous lisions cette citation qui se trouve dans Foyer chrétien, le Foyer chrétien, à la page 328 et au paragraphe 4. Le Foyer chrétien, à la page 328 et au paragraphe 4. Et avant, j'aimerais introduire cette lecture par la question suivante. L'Église a-t-elle le droit d'accorder à ses membres la liberté de transgresser le quatrième et le sixième commandement? Est-ce que Dieu confère à son peuple le droit d'octroyer au peuple de Dieu la liberté de transgresser la loi de Dieu? L'Église a-t-elle ce droit-là? Je le lis ici, Foyer chrétien, page 328, paragraphe 4. Les hommes ne sont pas libres de se forger des lois pour eux-mêmes, afin d'échapper à la loi de Dieu et de suivre leurs propres inclinations. Ils doivent se conformer à la grande norme morale de la justice divine. Hein? Vous ne modifiez pas la loi de Dieu. Non, 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 non. Si vous êtes en train de faire cela, vous êtes en train de toucher à l'œil de Dieu. Hein? Parce que sa loi, c'est quoi? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas une représentation de lui. Ce n'est pas une expression de son caractère. Vous êtes en train de faire une action double, en fait. En train de fourvoyer le peuple de Dieu, en train de déshonorer le Dieu que vous êtes en train, vous professez servir, parce que vous encouragez les autres à violer cette loi que vous professez garder. Les hommes ne sont pas libres. Ne sont pas libres de se forger des lois pour eux-mêmes afin d'échapper à la loi de Dieu et de suivre leurs propres inclinations. Est-ce que les hommes sont libres de faire cela? Hein, écoutez bien, frères et sœurs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais Dieu, dans ses exigences, il ne donne pas la liberté de se forger des lois pour nous-mêmes. D'échapper à la loi de Dieu. Pour échapper à la loi de Dieu. Il ne nous donne pas cette liberté-là. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez désobéir à Dieu. Mais dans l'appel de Dieu, pour faire partie de son peuple particulier, de son trésor particulier, pour satisfaire à ses attentes, Dieu ne vous donne pas la liberté de violer sa loi. Et il ne donne pas non plus la liberté à son Église d'octroyer la liberté aux membres de son Église de transgresser la loi de Dieu. Absolument pas. Ah, certes, oui, l'homme, le gentil, peut aller violer la loi de Dieu tout ce qu'il veut. Il peut. Il a cette liberté. Il est appelé à rentrer dans le bercail du Seigneur Jésus, du bon pasteur. Et s'il ne veut pas, il peut aller violer la loi de Dieu. Mais si vous êtes dans l'Église, vous êtes appelé à garder la loi de Dieu. Vous n'avez pas la liberté d'octroyer la liberté de transgresser la loi du décalogue des 10 commandements. Non, vous ne l'avez pas. Si vous vous l'octroyez, ceux qui donnent cette liberté sont en rébellion contre le gouvernement du ciel. Ni plus ni moins. Frères et sœurs, c'est sérieux. Si vous octroyez cette liberté à des hommes, si vous faites partie de ces hommes-là qui octroyez cette liberté de transgresser la loi de Dieu, vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. Dieu ne vous reconnaît pas comme son peuple particulier. Certes, vous êtes un pécheur pour qui Jésus a versé son sang, mais vous n'êtes pas parmi ce trésor. Absolument pas. À Dieu ne plaise. Je continue. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 619 et au paragraphe 3. Dieu n'a pas donné aux hommes la liberté de s'écarter de ses exigences. Le Seigneur avait déclaré à Israël, « Vous ne ferez pas chacun selon ce qui lui semble bon, mais garde et écoute toutes ces choses que je te commande. » Non, pas selon ce qui me semble bon, mais nous sommes appelés à garder, à écouter toutes les choses que Dieu nous commande et à vivre en harmonie avec celle-ci. Dieu n'a pas donné aux hommes la liberté de s'écarter de ses exigences. Encore une citation dans Pour un bon équilibre mental et spirituel, à la page 331, paragraphe 4. C'est très intéressant ici, frères et sœurs, parce que c'est dans cette question de conscience. Là, nous avons lu, j'aimerais vous relire cette déclaration des dirigeants du comité de la division européenne faite le 2 juin 1923, où il est écrit « Nous accordons à chacun des membres de notre Église la liberté absolue de servir son pays en tout temps et en tout lieu, conformément aux exigences de sa conscience personnelle. » Vous comprenez, le mot « conscience » est utilisé, donc nous nous disons, hein, automatiquement nous croyons « Ah, c'est quelque chose de positif. » Alors que ce n'est pas positif. C'est interdit par Dieu. Dieu ne vous donne pas la liberté de vous forger votre propre conscience vis-à-vis de ses exigences. Vous comprenez? Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Je lis ici, dans cette citation que j'allais commencer, dans « Pour un bon équilibre mental et spirituel » à la page 331. Écoutez bien, sur la question de la conscience. Hein, très mal comprise aujourd'hui. Donc nous voulons éclairer cela, jeter de la lumière sur cela. Je lis. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un homme peut faire tout ce qu'il croit, en conscience, être juste. Ah, c'est sa conscience, il devrait faire selon sa conscience. Nombreux sont ceux qui croient cela, n'est-ce pas? Hein? Peut-être avez-vous vous-même été parmi ceux-là. Oh, cette personne croit, c'est sa conscience qui le lui dicte, il faut qu'elle suive sa conscience. Est-ce vrai? Est-ce vrai, mes frères? Est-ce vrai, mes sœurs? Qu'un homme devrait suivre sa conscience. Hein? La question est importante, parce que c'est précisément la réponse qui va déterminer notre position vis-à-vis de cette position qui a été prise par l'Église adventiste du septième jour en 1923 vis-à-vis de la liberté qu'ils octroyaient aux membres de transgresser la loi de Dieu, de servir leur pays comme bon leur semble, en tout temps, en tout lieu, temps de guerre, temps de paix, quoi qu'il en soit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent transgresser la loi de Dieu, transgresser le quatrième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième commandement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais nous croyons qu'il faut que nous gardions le sabbat. Vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Je lis. Hein, nous croyons qu'un homme doit être libre de faire selon sa conscience. Mais quelle est la qualité de sa conscience? Hein? Quelle est la qualité de ma conscience, frères et sœurs? Parce que c'est la qualité, la condition de ma conscience qui va déterminer si les choix que je suis en suivant, que je prends, les décisions que je prends en suivant ma conscience vont être bonnes ou mauvaises. Hein? Je lis. Mais la question se pose de savoir si l'homme possède une conscience bonne et bien enseignée, ou si elle a été faussée, déformée par ses propres idées préconçues. Hein? La question se pose, quelle est la question qui se pose vis-à-vis de cette question de la conscience? Est-ce que cet homme possède une conscience bonne, une conscience bien éclairée? C'est ça la question. Pas si on lui donne ou pas la liberté de suivre sa conscience. Non, non, la question est, quelle est sa conscience? Est-ce que sa conscience est bonne, bien éclairée, par la loi de Dieu, qui est le seul bon guide? Ou est-ce qu'elle a été faussée, déformée, violée par ses propres idées préconçues? Nous avons des idées préconçues. Et ces idées préconçues vont déterminer la condition de notre conscience. Et ensuite, les choix que nous ferons, les décisions que nous prendrons en suivant les dictats de notre conscience, si notre conscience n'est pas bonne et bien enseignée, nos choix, toutes nos décisions seront mauvaises. Parce que tout commence là, au niveau de notre conscience. Quelle est cette qualité? Est-ce qu'elle a été enseignée? Est-ce qu'elle a été instruite? Est-ce qu'elle a été guidée? Est-ce qu'elle a été éclairée? Ou est-ce qu'elle est encore dans le flou et l'obscurité de mes préconceptions, de mes propres idées? Parce que mes propres idées, si je continue à les véhiculer, à les nourrir, bien, je vais en être instruit. Je vais m'instruire moi-même. Ma conscience va être instruite par mes idées préconçues. Et après, si je suis cette conscience, où est-ce que je vais aller? Droit dans le mur. En plein dedans. Hein? Et ensuite, si j'ai une telle conscience et que l'Église me dit que maintenant tu peux faire tout ce que ta conscience te dicte, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre mon âme. Et est-ce que le sang sera simplement sur mes mains? 1-1. Toi qui as dit cela. Ceux qui disent cela, ceux qui ont pris ces décisions-là, il faut qu'ils payent après. Il faut qu'ils payent après. Hein, le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui a transgressé la loi de Dieu et qui a encouragé les hommes à faire de même. Terribles seront les rétributions. Terribles. Il n'obtiendra pas miséricorde qui n'a pas fait reçu la miséricorde, n'est-ce pas? Pratiquer la miséricorde, enseigner la miséricorde, enseigner la loi de Dieu. Je continue. La conscience ne doit pas prendre la place d'un « ainsi dit l'Éternel ». Hein? La conscience ne doit pas prendre la place d'un « ainsi dit l'Éternel ». Donc si ma conscience me dicte quelque chose, mais le « ainsi dit le Seigneur » dit autre chose, qu'est-ce qui prime là-dedans? La conscience doit être instruite, soumise à la parole de Dieu. Ma conscience me dit quelque chose, mais la parole de Dieu me dit autre chose. Qu'est-ce que je fais? La conscience doit être démolie. Hein? C'est ce qui est écrit dans une des épîtres de Paul. Je crois que c'est dans 1 ou 2 Corinthiens. Hein? On doit abattre ses imaginations. Abaler de la conscience. Ma conscience me dit quelque chose, mais la parole me dit autre chose. Que dois-je faire? N'écoute pas ta conscience. Il faut que tu démolisses ces idées préconçues. Il faut que je les détruise, comment? Avec le glaive de la parole de Dieu. Et que vais-je faire avec ma conscience qui a été mal instruite? Je vais la couper, je vais la tailler, je vais la changer et je vais recevoir l'Esprit de Dieu qui va inscrire en mon âme, cœur et conscience la loi de Dieu. Et alors, ma conscience deviendra bonne, du moins sur ce point-là. Hein? Parce qu'à de nombreuses reprises, je vais me retrouver face à ce même dilemme. Ma conscience me dit quelque chose, mais la loi de Dieu, la parole de Dieu dit autre chose. Que vais-je faire? Est-ce que ma conscience va être mon maître? Non, l'épée va trancher. Il faut que je permette au Seigneur de modeler, façonner, abattre, détruire et refaire ma conscience. La conscience ne doit pas prendre la place d'un « ainsi dit l'Éternel ». Les consciences ne sont pas toujours d'accord entre elles et ne sont pas toutes inspirées au même degré. Hein? Parce que votre conscience, elle peut être inspirée de Dieu, mais il se peut qu'il y ait des coins, des recoins dans votre imagination, dans votre compréhension de la vérité et de ce qui est juste, qui n'ont pas encore été transformés, modifiés, purifiés, élevés, ennoblis par le Seigneur. Hein? Elles ne sont pas toutes inspirées au même degré. Il y a des degrés dans de ma purification par l'épreuve du Seigneur, l'épreuve de la fournaise ardente qui va venir attaquer, venir modifier, venir s'emparer de ma conscience pour la modifier, si je le veux bien. Les consciences ne sont pas toujours d'accord entre elles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous la même compréhension, le même degré de révélation dans notre expérience de la vérité de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs vérités, il n'y en a qu'une seule. Mais nos consciences ne sont pas au même niveau d'éducation. C'est pour ça que des fois il y a des désaccords. Pourquoi? Est-ce que la parole la change entre les personnes? Non. C'est juste que nous avons des idées préconçues. Et ces idées préconçues dicte la condition de notre conscience. Et puisque nous suivons généralement notre conscience, pour ce qui est juste ou mauvais, bien ou mal, eh bien c'est ces idées préconçues qui vont définir la donne. Je continue. Certaines consciences sont insensibles, comme si elles avaient été cautérisées au fer rouge. Hein? Conscience ne ressentent plus rien. Elle ne parle même plus, la conscience. Vous faites tout, bien ou mal, tout. Vous ne savez même pas ce qui est bien ou mal. Combien aujourd'hui sont comme cela, frères et sœurs? Hein? Plus le Seigneur nous aider de ne pas être comme cela. de ne pas permettre à notre conscience d'être comme cautérisée au fer, comme si nous n'arrivons même pas, nous sommes insensibles, nous n'avons aucune sensibilité à l'Esprit de Dieu qui veut inspirer, qui veut guider notre conscience pour abandonner certaines choses qui ont coloré, entaché la manière dont nous discernons, croyons discerner le bien et le mal. Certaines consciences sont insensibles, comme si elles avaient été cautérisées au fer rouge. Combien c'est malheureux, frères et sœurs, quand notre conscience est comme cela. Cela révèle que pendant de nombreuses années, nous avons résisté à l'Esprit de Dieu et que maintenant nous sommes complètement froids, insensibles aux appels de Dieu. Cela ne nous fait plus rien. Il faut briser cela, frères et sœurs. Il faut dire, Seigneur, casse-moi, fais de moi quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume comme cela. Il faut que le Seigneur casse, ou sinon nous serons à jamais comme cela.
Je continue.
Les humains peuvent se tromper en toute bonne foi, comme ils peuvent faire le bien en conscience. Je peux faire le bien selon ma bonne conscience, mais je peux aussi me tromper en toute bonne foi. Je suis honnête, mais mon honnêteté ne va pas faire de mes décisions des bonnes décisions si ma conscience n'est pas bonne et bien éduquée. Vous comprenez? L'importance d'une bonne conscience et combien est dangereux la position de dirigeants qui donnent la liberté à leurs membres qui n'ont pas une bonne conscience d'agir selon leur conscience. Ils sont en train de les fourvoyer, de les envoyer directement à la perdition. Voilà comment est dangereux le sort d'une telle personne qui donne de telles libertés. Mes frères et sœurs, je me souviens encore d'un pasteur. C'est dangereux, mon frère, ce que tu fais. Dangereux. Le Seigneur, il n'imputera... tiendra pas pour innocent, celui qui a fait cela. Il faut casser sur le Seigneur, sinon le Seigneur va te briser en 1000 morceaux. On ne pourra plus les rassembler à cause de tes choix, à cause de cela. Les humains peuvent se tromper en toute bonne foi, comme ils peuvent faire le bien en conscience. L'apôtre Paul ne croyait pas en Jésus de Nazareth, et il pourchassait les chrétiens de ville en ville en croyant sincèrement qu'il rendait service à Dieu. Elle était bien sa conscience? Non, elle n'était pas bien. Pourtant, il la suivait. Quelle était sa valeur de sa conscience? Probablement, les dirigeants lui donnaient la liberté de la suivre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé à cette église? Elle n'est plus abandonnée, laissée déserte, sans l'Esprit de Dieu.
J'aimerais conclure en lisant. Voyons voir. Qu'est-ce que j'aimerais lire? Bon, je vais laisser la déclaration de Testimonies to Ministers à la page 16, paragraphe 2, pour vous, parce que nous avons déjà exploré cela. Et je vais lire. Je vais lire cela ici dans Testimonies to Ministers à la page 16, paragraphe 2. Où il est écrit. Nous reconnaissons Dieu et sa loi, fondement de son gouvernement dans les cieux et dans toutes ses dominations terrestres. Son autorité doit être maintenue distincte et claire devant le monde et aucune loi ne doit être reconnue qui entre en collision avec les lois de Jéhovah. Si, au mépris des dispositions de Dieu, on permet au monde d'influencer nos décisions ou nos actions, le dessein de Dieu est anéanti. Aussi spécieux que soit le prétexte, aussi spécieux que soit le prétexte, si l'Église vacille sur ce point, sur sa position vis-à-vis de la loi de Dieu, de vacille, s'écarte de sa détermination à rester fidèlement ancré dans sa foi, sa fidélité à la loi de Dieu, si l'Église vacille sur ce point, il est écrit contre elle dans les livres du ciel qu'elle a violé la charge la plus sacrée et qu'elle a trahi le royaume de Christ. L'Église doit fermement et résolument défendre ses principes devant tout l'univers céleste et les royaumes du monde. Maintenant, je lis dans Conquérant Pacifique, à la page 13, paragraphes 1 et 3. Et nous allons conclure par cela. Qu'est-ce que l'Église? Hein? Vous voyez, cette citation, c'est vraiment une pierre angulaire de notre compréhension de ce sujet de l'Église. Et nous y revenons. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de discussion autour de cette déclaration. Elle parle pour elle-même. Conquérant Pacifique, page 13. L'Église est la forteresse de Dieu, sa ville de refuge qu'il maintient dans un monde rebelle. Toute trahison de l'Église est une traîtrise envers celui qui a acheté l'humanité par le sang de son Fils unique. Dès le commencement, les âmes fidèles ont constitué l'Église sur la terre. Dans tous les âges, le Seigneur a eu ses sentinelles qui ont porté un témoignage fidèle à la génération dans laquelle il vivait. Ces sentinelles ont donné le message d'avertissement. Et lorsqu'elles ont été appelées à retirer leurs armures, d'autres ont repris l'œuvre. Dieu a amené ses témoins dans une relation d'alliance avec lui-même, unissant l'Église sur la terre à l'Église dans le ciel. Il a envoyé ses anges pour exercer un ministère en faveur de son Église, et les portes de l'enfer n'ont pu prévaloir contre elle. Son Église, c'est quoi? Nous le lisons ici. La raison pour laquelle je lis cela, c'est à cause de cette déclaration qui se trouve ici, dans Conquérant Pacifique, page 13, paragraphe 3. Pendant des âges d'obscurité spirituelle, l'Église de Dieu a été comme une cité placée sur une colline. À travers les siècles, de génération en génération, les pures doctrines du ciel se sont développées en son sein. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, Elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Son trésor particulier. Il jette sur elle un suprême regard. Cette église dont nous venons de lire les détails. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. Voilà quel est le trésor particulier de Dieu. Et voilà quel est le danger. Voilà ce que font les hommes, ce qu'ont fait les hommes contre ce trésor. Voilà à quoi les hommes s'exposent lorsqu'ils sont enclins et qu'ils s'opposent à ce trésor, qu'ils mettent en danger ce trésor, quand ils exposent ce trésor à la destruction. Dieu jette sur elle un suprême regard et son Église, elle est pour elle comme la prunelle de ses yeux, comme son plus précieux joyau, le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance pour transformer les cœurs. La forteresse de Dieu, sa ville de refuge qu'il maintient dans un monde rebelle, toute trahison de l'Église est une traîtrise envers celui qui a acheté l'humanité par le sang de son Fils unique. Dès le commencement, les âmes fidèles ont constitué l'Église sur la terre. Dans tous les âges, le Seigneur a eu ses sentinelles fidèles. Ceux qui étaient fidèles à la vérité, et nous les avons vus,
ceux qui étaient fidèles à la loi de Dieu. Et toute trahison de l'Église, toute attaque, toute position prise qui expose le peuple de Dieu au danger, qui mène les brebis du Seigneur dans des sentiers dangereux, est considéré comme une traîtrise envers celui qui a acheté l'humanité par le sang de son Fils unique. Puisse, frères et sœurs, puisse le Seigneur nous donner de comprendre, nous donner de ressentir l'attention que le Seigneur a pour son peuple et l'affection qui est dans son cœur pour ce trésor, ceux qui gardent son alliance, ceux qui obéissent à sa voix. Et comprendre aussi que ceux qui feront cela ne seront pas nombreux, mais qu'ils seront précieux aux yeux du Seigneur et qu'ils pourront avoir l'assurance que le Seigneur les protège, les garde, a soin d'eux dans chacun des tournants de leur vie de pèlerinage sur cette terre, en attente fervente et en préparation pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ma prière que nous puissions discerner aussi que les hommes qui se comportent d'une telle manière envers le peuple de Dieu ne peuvent clairement pas faire partie de ce trésor particulier et de ce peuple particulier que Dieu nous a appelés à être et dont il nous a appelés à faire partie. Ces hommes-là et une organisation qui, dans ses prises de position officielles, expose le peuple de Dieu à de tels dangers, mène les brebis du Seigneur dans de telles traverses, certainement n'est pas de Dieu. Absolument pas. Ça ne peut pas. Ça ne sera pas. Plus jamais. Le Seigneur a fait ce qu'il avait dit. Il a vomi. Maintenant, il veut se concentrer sur son trésor. Ferez-vous partie de ce trésor, mes frères? Il nous incombe de faire ce choix. Il nous incombe de faire partie de ce peuple. Il nous incombe de faire partie de ce royaume de sacrificateurs, ce royaume de personnes qui seront à tout jamais ambassadeurs du Seigneur, ambassadeurs de Dieu, ambassadeurs pour parler de cet amour, parler de ce Dieu. C'est ma prière que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous encourage, nous fortifie et nous inspire au fur et à mesure que nous progressons dans notre cheminement de préparation en vue de la fin de toutes choses. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.